Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Vous savez maintenant que j'aime interviewer des personnes différentes à chaque fois, toujours vous surprendre et ne jamais me cantonner à un secteur d'activité particulier. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui Loïc Lagarde, qui est photographe et le premier représentant de cette profession dans l'histoire du podcast. Mais avant de vous parler un peu plus de Loïc et d'entamer la conversation, je commence par quelques petits points pratiques. Alors d'abord, certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, le podcast sort maintenant à une date fixe depuis plusieurs mois, le lundi matin à 6h15. C'est un peu mon nouveau rendez-vous et c'est aussi ma manière de vous mettre, je trouve, du baume au cœur pour commencer bien la semaine. Aussi, vous le savez, j'ai une autre activité en plus du podcast, la marque de joaillerie Gemio, que je dirige avec mes associés et à laquelle je me dédie complètement. Et le podcast que je fais bénévolement me prend quand même pas mal de temps, faut que je vous le dise. Donc le meilleur moyen que vous avez pour participer d'une certaine manière et me motiver pour continuer dans le temps, c'est simplement de vous abonner sur iTunes ou SoundCloud et encore mieux, de laisser un avis sur iTunes. Je sais que c'est fastidieux à faire, je l'ai fait pour certains podcasts amis et je sais que c'est pas facile en plus de trouver sur l'appli le lieu où le faire, mais sincèrement ça m'aide énormément et ça me motive, donc n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup plus que vous n'imaginez. Enfin, dernier point, j'ai lancé il y a peu une newsletter en plus du podcast, la News du Gratin. Je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend à peine 5 minutes à lire. Et la News du Gratin est envoyée le vendredi matin pour que vous puissiez savourer ces trouvailles avant le week-end pour bien finir la semaine. Donc vous avez le rendez-vous du lundi matin à 6h15 et la News du Gratin qui est plutôt le vendredi matin. Pour vous inscrire, rien de plus simple, ça se passe sur le site du podcast www.le-gratin.fr que je vous mets d'ailleurs en lien dans les notes de l'épisode sur iTunes. La news n'est envoyée qu'une fois par semaine, donc je vous rassure, vous ne serez pas spammé, ce n'est pas une longue mailing list dans laquelle je fais de la publicité, c'est juste du petit bonheur à consommer en 5 minutes chrono. Voilà, merci beaucoup et fini avec ces détails pratiques. Maintenant, on passe à l'invité du jour. J'ai donc le plaisir d'accueillir Loïc Lagarde, qui est photographe et que vous retrouverez notamment sur Instagram sur son compte loïc.lagarde, que je mettrai en lien dans le descriptif. Et j'ai demandé à Loïc d'être mon invité car au-delà du fait que j'avais encore jamais reçu de photographe sur le podcast, j'ai trouvé que son parcours était ultra intéressant et pourrait certainement inspirer certains d'entre vous. En effet, Loïc n'était pas du tout prédestiné à faire de la photo. Il commence sa carrière comme ingénieur dans l'aéronautique, puis dans les jeux vidéo, et met plusieurs années en fait, et plusieurs plantages, on va en parler, avant de trouver sa voie complètement par hasard. Un autre point remarquable pour moi, c'est que Loïc a su saisir sa chance et sans tergiverser. Il en parle au niveau photographique à la fin de l'épisode, quand il explique qu'en tant que photographe, il ne faut jamais procrastiner, toujours se forcer à tester, se déplacer, même dans le froid, la nuit, la neige, le mauvais temps, sous peine de rater une photo qui pourrait être extraordinaire. Mais je pense que cette philosophie de l'action s'applique aussi à la vie de façon plus générale. Et Loïc, en quittant un job bien à tout point de vue pour devenir photographe indépendant, alors qu'il était papa en plus, juste parce qu'il sentait dans ses tripes que s'il ne faisait pas, il allait rater le coche, est une vraie leçon de courage. On dit souvent qu'il faut avoir de la chance pour faire de grandes choses, je pense que c'est vrai. Mais Loïc nous prouve aussi qu'il faut avant tout savoir la saisir quand elle se manifeste. Un dernier détail avant de passer à l'interview, je regrette un peu, je dois l'avouer, le fait de ne pas avoir assez parlé photo avec Loïc. Alors j'en avais vraiment envie, mais aussi je voulais quand même vraiment parler de son parcours et de ses choix, donc j'ai peut-être laissé un peu trop de place à ses conseils versus des conseils plus artistiques. On évoque quand même son métier vers la fin du podcast, autour de la 40e minute. Donc pour ceux que ça intéresse, si jamais c'est vraiment ça qui vous plaît, n'hésitez pas à y foncer directement. Je ne le prendrai pas mal et Loïc non plus, je pense. D'autant plus que je dois vous dire que quand j'ai commencé à poser des questions à Loïc sur, sur cette technique de photo, je me suis tout de suite rendu compte à quel point il est passionné. Tout de suite en fait, mais il avait des yeux qui brillaient, c'était incroyable. Donc rien que cette partie vaut le détour. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Loïc Lagarde. Salut Loïc et bienvenue sur le podcast.
Bonsoir Pauline.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais qu'en plus tu bouges beaucoup, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir réussi à t'attraper à un moment où tu étais à Paris. Et je voulais commencer simplement par te faire parler de ton parcours et comment tu es devenue photographe, comment tu es tombée dans le monde de la photo. Parce qu'on en a parlé un petit peu avant, mais pour t'expliquer, j'ai pas mal d'auditeurs qui sont des personnes qui sont soit en mode création d'entreprise, soit qui envisagent de le faire, etc., qui sont un peu en train d'envisager l'entrepreneuriat et qui se posent la question de changer de métier et surtout de vivre de leur passion, ce que tu as fait. Beaucoup ont peur des risques que ça peut susciter, ce qui est assez compréhensible. Et toi, tu l'as fait, donc je trouve ça hyper intéressant. Et donc, je voulais parler un peu de ça parce que je crois savoir donc, que tu étais ingénieur dans une vie antérieure. Et donc, maintenant, tu es un photographe de renommée internationale. Donc, ma première question, c'est simplement une question que je pose d'ailleurs souvent à mes invités, mais souvent pas en premier, qui est « Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, mon cher Loïc ?»
Alors, ce que je voulais faire quand j'étais petit, bon, j'ai eu beaucoup de phases. Hein, parce que quand on est petit, on change souvent entre médecin militaire à un moment…
Médecin militaire. Ah ouais,
oui,
c'est
parce
original.
Que il y a un moment, j'aimais bien l'armée.
Écoute.
Voilà, donc je suis resté toujours un petit peu dans la technique. Hein,
ouais.
Et j'ai toujours, depuis quasiment que je marche, j'ai toujours dessiné.
D'accord. Voilà. Je ne savais pas.
Donc, je dessinais.
Donc, tu as toujours été quelqu'un de visuel, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Quelqu'un de visuel plus que de. J'ai toujours été très nul en musique, par contre.
Ah.
Voilà, moi, j'étais toujours branché visuel, effectivement. Donc, le dessin, d'ailleurs, j'ai pris l'option dessin au bac.
D'accord.
Donc, bac scientifique, hein, voilà. Et à côté de ça, j'étais amené, comme beaucoup de garçons... aussi à des études scientifiques et également parce que j'étais complètement nul en langue, je détestais le français.
D'accord.
Et j'étais plus à l'aise en maths et en physique. Voilà. Donc ça m'a amené à faire des études d'ingénieur et à être ingénieur en électronique, c'était ce qui était le plus à la mode à l'époque, fin des années 90, début des années 2000.
Ouais.
Et j'aimais les ordinateurs aussi, un peu un côté geek qui m'a passé lorsque je suis arrivé en école d'ingénieur, parce qu'il y avait plus geek que moi et ça m'a refroidi. Et en arrivant en école d'ingénieur, la première chose que j'ai faite, c'est monter une association d'art plastique.
D'accord. Ah oui, donc tu étais un peu, au sein de ton école d'ingé, tu devais quand même être un peu le seul.
J'étais
l'artiste. Je vais te rendre peut-être la caricature, mais...
Oui, j'étais l'artiste du...
Du groupe, quoi.
Et je me suis un peu désintéressé d'ailleurs à la technique pure et dure, à l'électronique et tout le bazar.
Mm.
J'ai quand même commencé à travailler un petit peu dans le milieu, mais entraînant les pattes, on va dire.
Ouais, j'allais te demander, du coup, c'était quoi ton premier job quand tu es sorti d'école ?
Alors, j'ai d'abord... ma première expérience, c'était aux États-Unis chez General Electric.
D'accord.
Où je travaillais sur des moteurs, pas d'avion, parce que comme j'étais... étranger, je n'avais pas le droit de travailler sur des moteurs qui volaient. Donc, je travaillais sur des moteurs qui ne volaient pas et qui épluchaient des tomates.
D'accord.
Des turbines.
D'accord,
gros,
des turbines, mais plus secteur de l'agriculture, quoi.
Agriculture, énergie.
D'accord.
Et système de contrôle dessus. Et j'étais à Cincinnati dans l'Ohio. C'était pas forcément très palpitant comme vie. Je suis donc rentré à Paris et là-dessus, j'ai commencé à travailler dans un secteur qui me plaisait un peu plus et où j'ai commencé, on va dire, à quelque part à basculer tout en restant bien dans les cordes, c'est le jeu vidéo.
Ah ouais, sympa.
Qui permet d'une certaine façon, qui m'a permis d'une certaine façon de commencer à allier ma passion, on va dire, pour la création.
Ouais.
Et mon background technique.
Ouais, carrément.
Le jeu vidéo, c'est vraiment ça. Donc, voilà, j'ai travaillé un certain nombre d'années là-dedans. Je me suis bien épanoui. J'ai eu des projets sympas. J'ai beaucoup voyagé à cette époque-là. Et finalement, c'est le voyage qui m'a amené à la photo.
Mais j'allais te demander, parce qu'en parallèle de ça, est-ce que le petit Loïc que tu étais, qui dessinait, continuait à avoir quand même au fond de sa tête cette envie de création et de, tu vois, affirmer de vouloir soit dessiner, soit faire de la photo? Comment ça se passait en fait? Est-ce que tu as complètement arrêté de dessiner et de prendre des... Peut-être que tu prenais même pas de photos du tout à l'époque.
Jamais, en fait, j'ai absolument jamais pris une seule photo avant l'arrivée du numérique.
D'accord.
Et parce que je savais déjà utiliser Photoshop et parce que j'étais déjà à l'aise avec l'ordinateur, ça m'amusait de commencer à faire quelques photos. Mm-hmm. Mais à cette époque-là, je ne faisais pas de la photo. Non.
C'est, d'accord.
On va dire le premier voyage déclencheur qui m'a fait faire des photos avec mon premier appareil numérique. À l'époque, c'était un petit appareil qui faisait 2 millions de pixels.
Ouais,
c'était en 2003, lors de mon voyage autour de l'Australie.
Ah, génial, en même temps, des photos plutôt sympas à prendre.
Exactement, comme il y avait des paysages magnifiques, je me dis, voilà, c'est probablement la seule fois dans ma vie que je vais voir des paysages comme ça, que je vais faire un voyage en sac à dos comme ça. J'avais fait donc j'avais pris des photos et j'avais aussi rédigé un carnet de voyage.
D'accord.
Tous les jours, je me forçais à écrire ce que j'avais fait de la journée. Et à mon retour en France, j'avais même mis en ligne ce qu'on allait appeler 10 ans plus tard un blog.
Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Du coup, c'était pour le partager avec ta famille. C'était, parce que 2003, c'était quand même très très tôt quoi, pour se lancer dans ce genre de...
Oui, ça n'existait pas du tout. Ouais. Moi, j'avais juste besoin de transcrire mon expérience à travers mes photos, raconter un petit peu mon itinéraire, mes expériences par écrit, tout ce que j'avais aussi écrit sur mon notebook. Et je racontais à mes amis lorsque je suis revenu. Je me faisais un plaisir de raconter à mes amis mon voyage avec une carte et tout ça. C'est des choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, on est vraiment dans un autre monde. Et donc, j'avais mis en place un site internet avec les outils qu'on avait à l'époque.
Mais du coup, c'est à ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure, que tu as eu un peu le déclic photographique et que tu as commencé à t'y intéresser vraiment, et notamment sur la photo de paysage. Parce
à
que c'est
ce moment-là où j'ai commencé à me dire que c'est bien de faire des photos quand je voyage, déjà.
D'accord.
Mais on reste,
mais
on reste
vraiment complètement personnel.
Dans le côté personnel. Et voilà, moi, je suis un peu le croisement de la génération X et la génération Y, largement éduqué dans la génération X, on va dire, et où à l'époque, la génération Y n'existait pas, d'ailleurs. Le concept de génération Y n'existait pas. Et j'ai plutôt été brainwashé par la génération X. J'ai gentiment pris mon CDI pour commencer une carrière avec une logique de développement vertical.
Ouais.
Et comme on...
Sans te poser réellement de questions sur ce que tu voulais, quoi. Plus parce que c'était ce qu'il fallait
faire. Et puis j'avais trouvé un job dans un secteur qui me plaisait, qui alliait justement un petit peu cette passion de création, hein, dans le jeu vidéo. Donc j'étais quand même proche du milieu de tout ce qui est... quand on parle de dessin, il y avait quand même des designers, des graphistes, des développeurs dont je m'éloignais exprès parce que je ne voulais pas faire du développement. Moi, j'étais plutôt dans tout ce qui était ce qu'on appelle producteur, game designer, c'est-à-dire celui qui fait les specs.
D'accord.
Et ensuite, j'étais chef de projet. Donc, je me suis un peu écarté de ça. Tout en restant dans des milieux dans ce milieu qui m'intéressait. Et je gardais donc cette passion du voyage, accessoirement la photo qui allait avec le voyage, comme un hobby. Oui,
bien sûr.
Et en fait, c'est au fur et à mesure de mes voyages, plus je faisais des voyages et que j'allais loin, et plus j'essayais de me perfectionner en photo. Et à un moment, je me suis simplement fait une réflexion. à l'île de Pâques. Quand tu vas à l'autre bout du monde, sur l'île de Pâques, c'est quand même compliqué d'y aller.
Ouais.
Et tu n'y vas pas tous les jours.
Ouais.
Et tu commences à faire des photos et que tu te remarques que finalement, tu t'es planté dans les réglages.
Ça, c'est dommage.
Oui, c'est dommage.
À l'île de Pâques.
Et donc là, tu te dis, à la prochaine fois, je vais quand même essayer de faire mieux.
D'accord.
Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me perfectionner.
D'accord.
Et à me dire qu'il fallait que j'investisse dans du matériel, premièrement, et qu'il fallait que j'apprenne à faire correctement une photo. Et voilà. Et de fil en aiguille, j'investis dans un premier réflexe, puis dans un deuxième, où j'ai commencé à partager mes photos sur les forums. C'était au milieu des années, on va dire, enfin, à la fin des années 2000, vers 2008-2010,
ouais.
Où il y avait des forums dédiés à la photo. C'est comme j'ai beaucoup appris. Moi, je suis autodidacte de la photo, je n'ai pas fait...
J'allais te demander justement si tu avais fait des formations, voilà. Si tu avais eu un mentor, ou comment tu avais fait finalement pour te t'auto-former comme ça, parce que c'est quand même hyper technique la photo.
Les forums. Où voilà, je partageais mes photos sur des formes de critiques de photos, je recevais des critiques constructives qui m'ont permis d'apprendre, et puis après c'est l'expérience, au fur et à mesure on essaye de toujours mieux faire, et voilà, donc c'est vrai, et c'est en faisant aussi des erreurs.
Ouais.
Comme je parle de l'île de Pâques, mais pour moi toute expérience est une erreur, et en faisant des erreurs on apprend et on essaye de faire mieux.
Ouais.
Et comme ça on se perfectionne et on devient on essaye de tendre à devenir un peu moins mauvais.
Mais donc c'est vraiment à ce moment de l'île de Pâques que tu as commencé à décider que tu voulais investir du temps et te professionnaliser un petit peu, pas forcément j'imagine à l'époque en mode je vais devenir un pro et je vais en vivre, mais plus je veux investir dessus et je veux que ça soit un hobby où je m'améliore, ce qui est quand même déjà une démarche différente.
Oui,
de juste prendre des photos quand tu voyages, quoi.
Oui, alors c'est venu progressivement. Je prends l'exemple de l'île de Pâques, qui est particulièrement évocateur, mais c'est venu plus progressivement. Et donc ensuite, toujours lorsque je travaillais dans le jeu vidéo, je suis parti en Chine.
Heureusement que tu avais un job où tu voyageais beaucoup, parce que sinon, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, quoi.
Oui, ça. j'ai toujours eu ce besoin de voyager, donc c'est ça aussi qui m'a fait faire ces choix. J'ai voyagé depuis tout petit, mes parents, je voyageais pas mal, je venais avec eux. Donc, c'est une passion que j'ai toujours gardée, le voyage. Et j'étais en Chine, donc, et à Shanghai. Et à ce moment-là, je me suis mis à photographier la ville dans tous les sens, lors de mes week-ends. Et là, j'ai pris encore plus goût à la photo. À ce moment-là, ça allait dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ça allait pas très bien. Et je me disais, tiens, c'est le moment pour que je parte de mes propres ailes. Et à cette époque-là, j'avais un peu eu la fièvre de la Chine de l'époque où tout était possible, il y avait plein de choses à faire. Je me dis, ouais, je vais tenter mon aventure en Chine.
Ah ouais, donc c'est quand même aventurier, quoi, parce que tu te dis, je vais aller essayer de bosser en Chine.
Je vais essayer de monter un business en Chine avec, j'ai monté un truc en France, mais avec des partenaires qui étaient basés en Chine, mais à l'époque, ça n'a rien à voir avec la photo, ça n'avait rien à voir. Alors, je sortais un peu du jeu vidéo, mais... je restais dans le monde des nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses, quoi. Je voulais faire ma propre expérience et essayer de me développer, donc sur notamment avec tout ce qui se passait en Chine à l'époque.
Ouais.
Voilà, j'ai un peu fou, un côté tête brûlée. Je pense qu'après, mon expérience n'est pas forcément transposable à des personnes raisonnables,
ouais.
Qui sont prêts de quitter un job pour tenter n'importe quoi. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est lorsqu'on fait des études supérieures relativement solides, on a le luxe de pouvoir prendre plus de risques.
Ouais, c'est vrai.
Donc, paradoxalement, c'est pas justement. C'est pas
si risqué que ça en réalité, quoi. Tu n'étais pas non plus apeuré à l'idée de ne plus jamais retrouver un boulot.
Non, j'étais pas. Et puis, déjà, on n'a qu'une vie. Si on est capable de faire quelque chose, on est capable de faire d'autres choses. Et si ça plante, bah tant pis, au moins on aura essayé.
Voilà. C'est sûr.
Et on peut toujours rebondir ou pas. Parfois, on ne rebondit pas et on sombre. Bah, oui, bah, c'est comme ça, c'est la vie. C'est...
Mais donc là, mais... en l'occurrence, malheureusement, cette histoire en Chine ne s'est pas très bien passée.
Non, ça ne s'est pas très bien passé. Comme beaucoup d'expériences, hein. Les expériences en ligne se passent mal. Quand on fait une expérience, ça se passe mal. Et parfois, il arrive que ça se transforme et hop, il se passe quelque chose. Quelque chose d'autre. Il y a des surprises ou pas, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça. Donc, en gros, tu essayes de créer des boîtes. Ça ne se passe pas exactement comme tu veux. Mais en parallèle, tu continues toujours à vivre,
je faisais de la photo, je commençais là et continuais les voyages et tout ça. Et puis.
Alors, comment ça se passe justement la transition de toutes ces aventures
Alors, en fait, la transition s'est passée de façon assez surprenante. Parce que je postais à l'époque mes photos sur un site qui s'appelle Flickr.
Ouais, que je connais.
Et j'avais reçu donc il y a exactement maintenant 7 ans de cela, un message sur Flickr d'une start-up californienne qui m'a proposé de faire des photos d'appartements.
D'accord.
Qui mettaient en location. D'appartements de propriétés qui mettaient en location. Je trouvais ça amusant. C'est une entreprise qui était à l'époque absolument pas connue. Je lui dis tiens pourquoi pas, je n'avais jamais encore considéré vraiment monétiser la photo. Voilà, et cette start-up s'appelle Airbnb.
Oui, donc une petite start-up à l'époque. Mais...
Et donc c'est ce qui a fait le tournant décisif de ma vie, en tout cas sur cette partie-là, et qui a fait que je me suis transformé en photographe.
Et donc tu as accepté de travailler pour eux?
Et donc,
c'était pas un emploi à plein temps.
C'était du freelance. Ouais. C'était le début de l'ubérisation, de la Airbnbisation. Dans le mode de vie que j'avais à l'époque, je me dis, de toute façon, je fais de l'investissement derrière. J'essaye de monter ma startup, etc. Avoir des revenus complémentaires, pourquoi pas. Ces revenus complémentaires sont devenus plus que complémentaires. La startup a littéralement explosé et je me suis mis à faire à shooter des propriétés pour Airbnb pendant près de 3 ans.
Mais alors justement, je veux bien qu'on en parle un petit peu parce qu'on en avait discuté il y a quelques années, je me rappelle, quand on s'était rencontrés la première fois et tu m'avais dit que tu avais quand même un peu révolutionné la façon, tu ne me l'avais pas dit comme ça parce que t'es humble, mais je veux dire, tu avais quand même complètement repensé le process de prise de vue et de retouche aussi à l'époque pour Airbnb qui fait qu'en fait, tu étais le premier photographe pour Airbnb en France, si je ne me trompe pas. Alors qu'en plus, la France, au monde,
Tu as vu comment je suis humble.
Non, mais tu fais bien de me le dire, tu vois. Mais du coup, pour revenir sur cette période, qu'est-ce que tu devais faire et comment tu t'y es pris et quelle a été un peu ta réflexion à l'époque?
Airbnb proposait un tarif au shooting par appartement qui était faible.
C'est-à-dire qu'il te payait par shooting d'appartement, d'accord?
Par appartement,
et
par
propriété.
Et tu dois shooter
toutes les par propriété, tu dois prendre en photo toutes les salles, en gros, qui sont
par,
dans cet appartement.
Il y a une dizaine de photos par... tout était très industrialisé et automatisé. Donc ça, c'était une bonne chose. Ils avaient un cahier des charges très, très précis sur le type de photos qu'ils souhaitaient. Et on pouvait directement soumettre les photos pour validation. Et dès validation, on était payé. Donc, c'était vraiment très, très efficace comme système. Et la réflexion est que voilà, je me suis dit, bon, un shooting, si je fais ça pendant la journée, c'est clair que ça ne va pas me... Ça ne va pas me payer mes charges. Donc, comme il y avait du volume, notamment à Paris, voilà, Paris était, et je crois, est toujours la première ville d'Airbnb au monde. Donc, il y avait énormément de demandes, quartier par quartier. Et ce que je faisais, c'est que je rassemblais toutes les demandes quartier par quartier pour minimiser au maximum mon temps de trajet.
Bien sûr.
Je plaçais donc tous mes rendez-vous de telle manière à ne pas perdre de temps et ensuite tous mes shootings étaient faits de façon très industrielle. Alors ça avait le bon côté d'être rentable économiquement, mais humainement parlant, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus de plus optimisé, parce que bon, là, j'étais, c'était bonjour monsieur, bonjour madame, et au revoir monsieur, au revoir madame, faites votre lit et nettoyez les toilettes.
T'as dû voir des trucs assez marrants, j'imagine. Quand
ah
même.
Oui, complètement. Ouais. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que, ce que j'adorais dans cette expérience, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la rencontre des personnes qui m'ouvraient dans leur intimité, enfin qui m'accueillaient dans leur intimité.
Ouais,
et
sûr.
Jamais on a ce rapport à lorsqu'on visite une ville, même lorsqu'on va chez des amis, on n'a pas cette vision omnisciente de chez les gens, en fait.
Ouais, bien sûr.
Où ils vont, c'est un petit peu comme en...
Oui, là, tu rentres vraiment dans leur intimité, dans leur vie.
J'ai l'impression d'être, de faire des consultations, quoi, d'être un peu le gynéco ou d'être, voilà, ils me montraient vraiment leur, voilà,
ouais.
Je comprenais quand même leur toilette en photo.
Ouais, c'est marrant.
Donc, ils s'ouvraient aussi, alors, notamment à Paris, où les Parisiens, j'ai toujours eu une image très négative de Paris. Parce que lorsqu'on vit avec le mode un peu métro-boulot-dodo, on travaille dans un quartier, on vit dans un autre quartier, et puis ça s'arrête là. Et là, j'allais dans tous les quartiers parisiens, je voyais des gens très différents que je n'avais pas rencontrés avant. Parce que lorsqu'on vit dans un quartier, on ne bouge pas vraiment et on croit que tout le monde est pareil partout, alors que ce n'est pas vrai du tout.
Ouais.
Et j'ai rencontré des gens très intéressants qui levaient un petit peu la carapace. Lorsque les Parisiens dans la rue sont agressifs, tout en leur intérieur, c'est pas pareil.
Oui, c'est pas la même chose de prendre quelqu'un en photo dans la rue, évidemment, qui a autre chose à faire et qui finalement est
ou même extérieur. Même interagir avec, tout simplement. Lorsqu'on vient les voir dans leur chez-soi et qu'ils ont besoin de... Ils avaient besoin de moi pour mettre leur appartement en location. Déjà, je leur apporte indirectement de l'argent, donc ils sont contents de me voir.
Ouais.
Et eux, c'est pas eux qui payent, c'est Airbnb qui prend en charge la prestation. Donc ça faisait qu'on n'avait pas de rapport d'argent aussi entre nous. Et ça, c'était aussi intéressant. Et j'étais plutôt là en tant que conseil pour les aider à
valoriser,
préparer leur appartement et à le mettre en location. Et ça m'a permis aussi d'avoir une vision vraiment omnisciente et très, très intéressante de Paris ou de New York. J'ai beaucoup shooté à New York également de la même manière. Et de voir finalement qu'à Paris, il y avait une homogamie par quartier. Et
d'accord.
C'était un petit peu « dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es ».
Ah, c'est marrant.
Et ça marche à 95%.
Et je me rappelle que ce que tu me disais à l'époque, on en avait parlé la première fois, c'était que donc, effectivement, tu allais assez vite dans la prise de vue. Tu avais même innové aussi, je sais, sur la manière dont tu mettais en scène les personnes qui habitaient dans les appartements pour rendre ça plus vivant, pour que ça ne soit pas complètement froid. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu m'avais décrit à l'époque, c'est qu'à la fois, il y a un côté artistique, parce que voilà, tu mets en scène des gens, tu les fais vivre, enfin tu vas donner un peu une âme à la photo pour que ce soit pas juste tu as une horrible photo qui donne pas du tout envie, mais en même temps t'avais vraiment créé un process comme tu l'as expliqué précédemment qui fait que t'es devenu le premier au monde sur Airbnb. Et en fait ce que je trouve assez marrant, c'est que du coup j'ai vraiment l'impression que t'as réussi à allier à la fois ton côté artistique et en même temps ton côté, si je puis dire, ingénieur de création un peu de process, tu vois, et de voilà, de réussir à faire en sorte que ça soit carré, que ça dépote et que juste ça avance. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait de façon rationnelle et construite? Je t'explique parce qu'en fait, je pose souvent des questions sur un peu le processus de pensée. Ça m'intéresse pas mal pour que les gens ensuite arrivent à prendre leurs propres décisions aussi, au-delà de ton expérience. Est-ce que tu l'as fait naturellement parce que c'est juste qui t'es? Ou est-ce que tu t'es dit, non mais en fait, si je fais ça, il faut que je le fasse intelligemment. Et moi, je suis à la fois artistique et en même temps, j'ai une différenciation par rapport à d'autres artistes qui est que je suis ingénieur de formation. Donc, je vais mettre en place des process au niveau de la retouche, au niveau de la prise de vue. Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé que j'avais juste une logique de performance que je m'imposais d'une certaine façon. Donc, à travers cette logique de performance et économique, finalement.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est assez naturel. C'est peut-être aussi une déformation de ma formation qui fait ça. Naturellement, j'ai mis en place ces process pour optimiser au mieux le flux rentrant et ma production. Mais à côté de ça aussi, j'avais une certaine boulimie qui n'avait rien à voir avec les considérations économiques, mais une boulimie de rencontrer et de découvrir un maximum de nouveaux endroits et de nouvelles personnes. Mmh. Un peu comme une boîte de chocolat où on a envie de, voilà, de voir, tiens, machin, et puis voilà. Parfois on tombe sur des gens qui sont pas forcément très intéressants, et parfois on tombe sur des gens qui sont super intéressants, et moi c'était ça qui m'excitait. C'est toujours cette promesse de rencontre, c'est des rencontres qui vont durer 20 minutes peut-être, mais c'est quelque chose d'unique, et donc c'est ça qui me drivait dans ce que je faisais.
Je comprends. Voilà. Et du coup, maintenant que tu es passé, donc tu as arrêté de travailler pour
Airbnb. Et donc, justement, quand tu parles de process et tout ça, voilà, ça a intéressé. Airbnb commence à être connu, etc. Et puis, ma façon de travailler et mon profil, ça a intéressé d'autres entreprises, dont les françaises. Et je me suis retrouvé à travailler chez Wonderbox. Qui font les coffrets cadeaux, et qui avaient une logique également de sortir de la boîte dans tous les sens du terme, et s'intéresser à un profil un peu comme moi, un peu web, un peu start-upper, pour se développer hors de la boîte, et également rénover un petit peu tout leur process de visuel. Et j'ai importé chez eux l'expérience que j'avais acquise chez Airbnb.
D'accord.
Où j'ai mis en place un outil analogue à celui d'Airbnb. Alors là, je me suis vraiment remis un peu du côté chef de projet ingénieur, en gros, où j'ai conçu la plateforme d'échange entre les photographes et les partenaires et Wonderbox.
Je veux dire que tu avais un profil génial pour eux, parce que étant passé à la fois par le côté ingénieur et le côté photographe.
Enfin, oui, c'est ça, exactement.
Ils devaient être assez contents.
Et donc voilà, donc j'ai fait chez eux ce que j'avais vu chez Airbnb en co. Donc voilà, j'ai recruté également un pool de photographes partout en France pour aller shooter chez leurs partenaires, qui sont des hôtels, des spas, des restaurants, des partenaires sportifs. Alors beaucoup les hôtels, en revenant un petit peu. Donc c'était vraiment transposable à l'idée. Et voilà, donc il y avait le côté opérationnel d'envoi de photographes chez les partenaires. Où j'avais structuré une équipe qui s'occupait de ça, et également la plateforme que j'ai conçue pour l'envoi systématisé des photographes jusqu'à la réception des photos, et l'envoi des photos directement dans leur back-office jusqu'au livret, en fait.
Et tu as fait ça pendant combien de temps ?
Et j'ai fait ça pendant 2 ans, et j'ai aussi participé à d'autres projets internes qu'ils ont mis en place.
D'accord.
Donc,
mais tu continuais à shooter pendant ce temps-là, à faire des photos personnelles de voyage, ou finalement tu as plus de temps ?
Oui, et là-dessus, alors ça m'a débloqué du temps, justement. Le fait de devenir salarié, ça m'a débloqué du temps. C'est que le fait d'être quand j'étais chez Airbnb, je ne faisais que shooter pour gagner de l'argent, et le soir j'étais crevé, j'allais me coucher. Voilà.
Oui, t'as été et
voilà, exactement. Donc j'avais pas vraiment le temps de développement personnel artistique. Lorsque j'étais chez Wonderbox, ça m'a permis d'avoir du temps pour moi, pour me redéployer, notamment sur les réseaux sociaux, travailler sur mes photos, et c'est à ce moment-là que je me suis développé, notamment sur Instagram.
D'accord.
Voilà. Et je suis venu assez tard sur Instagram, parce que c'était pas à l'époque un réseau de photographes.
Oui,
c'était des gens qui avaient un téléphone portable.
Ça a été fait pour des non-professionnels, en fait.
Oui, voilà, qui prenaient en photo, qui se faisaient des selfies, qui mettaient des filtres et tout ça. Donc je ne voyais pas Instagram comme une plateforme sur laquelle je pouvais communiquer mon travail. Les choses ont changé au fur et à mesure, et on va dire en 2015, je m'y suis intéressé vraiment. Et c'est donc à l'époque où j'ai commencé à travailler chez Wonderbox. Et puis...
c'est vrai que c'est assez tard, finalement, quand même, quand on y pense.
Oui, parce que ça a commencé en 2010, effectivement. Ouais. Donc moi, c'est assez tard, je me suis mis en 2015, et mon compte a vraiment monté vers 2016. et 2017. Et en 2017, j'ai atteint 100 000 abonnés, je commençais à me redéployer, et j'ai vu qu'il y avait un business derrière.
Donc le côté entrepreneur.
Le business de l'influence, qui était encore très émergent. Il y a un truc émergent là, qui émerge. Et là, je me suis dit, il faut que je prenne le truc maintenant, sinon ça va être raté.
J'ai loupé le coche.
Et ouais. Donc, j'ai quitté, on va dire, Wonderbox en de très bons termes. Je les ai gardés en tant que client, d'ailleurs.
Et ça, voilà. C'est hyper intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, comme je te disais au début, qui écoutent le podcast, qui sont des personnes qui se posent la question d'entreprendre ou de se mettre à leur compte. Donc toi, tu étais passé par des phases en plus difficiles où tu avais essayé de monter des boîtes, ça n'avait pas marché. Tu étais retourné dans le monde du salariat mm-hmm. et finalement, ce n'était pas si déplaisant que ça.
Oui,
et là, tu reprends le risque de te lancer tout seul, alors que je ne sais pas si tu avais déjà une famille à l'époque, mais bon.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc
j'ai commencé à prendre des risques au moment où j'ai commencé
où
à avoir un
fils. Personne n'en prend.
Exactement, et moi j'ai fait tout l'inverse.
Et alors j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que. Qu'est-ce qui a fait, tu dis que tu es un peu fou et que tu aimes bien prendre des risques et que tu es audacieux, je trouve ça top, mais est-ce que quand même, concrètement, combien de temps est-ce que tu as pris avant de prendre la décision de quitter Wonderbox pour te mettre à ton compte, et qu'est-ce qui a été un déclic, qu'est-ce qui a fait?
Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que... Alors déjà, j'étais un petit peu... Alors déjà, mon chef est parti.
D'accord.
C'est,
en non, gros, mais ça reste
voilà,
compte.
C'est clairement, dans toutes les entreprises, en général, c'est un événement déclencheur de départ. T'as un mouvement de départ ensuite qui vient après, où t'as tes collègues amis qui aussi qui font la même chose.
D'accord. Donc c'était une période quand même qui était propice au départ.
Ah aussi. Oui, c'était une période propice au départ. Mmh. Voilà. Donc il y avait un côté départ, un côté manque de projet, mettre sous la dent qui m'intéressait. Hein, et puis je voyais mon compte monter sur Instagram. Et là, je me suis dit, une fois que j'arrive à 100 000 abonnés, bye bye quoi.
Voilà, t'as si c'est pas indiscret, t'as eu une discussion un peu avec tes proches, ta famille, des amis à ce sujet qui t'ont peut-être déconseillé de le faire? Parce que je sais qu'une fois de plus, je parle beaucoup des auditeurs, mais souvent quand on se lance, notamment pour être indépendant, parce que c'est encore autre chose que de lancer une start-up. Aujourd'hui, c'est assez à la mode de lancer des start-up, mais d'être indépendant, photographe, c'est quand même des métiers, même si t'avais 100 000 followers, où on se dit c'est risqué, tu vois, on sait pas de quoi demain va être fait, c'est dur. Est-ce que c'est une discussion que tu as eue finalement avec ton entourage pour aller de l'avant?
Comme j'avais déjà eu cette expérience, ils sont plus à ça près. Voilà.
Ils avaient survécu à la Chine, ils s'étaient dit
donc,
c'est bon.
Non, ça a été plutôt mieux accueilli d'ailleurs la deuxième fois, cette fois-ci, mm-hmm. que la première fois où j'étais un peu plus flottant, on va dire.
Mm-hmm. Voilà. Oui, parce qu'à la différence d'Airbnb, qui finalement, ils sont quand même vraiment venus te chercher, là, c'est toi en fait qui a fait l'acte de partir et de créer.
Lorsque j'ai quitté mon entreprise de jeux vidéo, je suis parti aussi. Pour faire ma propre aventure. C'était 2 ans avant que Airbnb me contacte.
D'accord.
Donc il y a une période
où j'ai
un peu essayé de faire des choses. Disons que la deuxième, cette fois-là, je suis parti moins nu que la première peut-être.
Oui.
Ou plus en connaissance, plus,
et aussi encore,
ça ne veut pas dire grand chose, mais avec plus d'expérience en tout cas de la réalité de ce qu'est de travailler à son compte, et avec également plus d'avertissements sur j'étais pris plus de coups sur la figure, hein, voilà. Et donc ça n'empêche que même si on a des expériences, on a pris des coups sur la figure, ça ne garantit pas qu'on va mieux réussir ensuite.
C'est vrai.
D'ailleurs, parfois même moins, parce qu'on est plus apeuré, on a plus de réserves. Mais en tout cas, aujourd'hui, de toute façon, c'est mon tempérament. Et puis voilà.
T'aimes cette liberté. Et si on fait un petit focus un peu, si ça te va, sur ton style, je trouve que... pense pas être la seule personne à le dire, mais tu as quand même un style graphique qui est hyper reconnaissable et hyper homogène, notamment donc sur ton compte Insta. J'ai farfouillé assez loin, je te cache pas, pour essayer de trouver des photos qui seraient différentes dans le style, qui seraient pas tout à fait les mêmes. Et en fait, j'ai été quand même assez étonnée de voir que ça datait de 2015. Donc, c'est effectivement très, très lointain. Et même là, il y a quand même déjà le style Loïc Lagarde. Donc, je trouve ça intéressant, même s'il y a une évolution dans la création du contenu. Je me suis dit, est-ce que... Donc, je sais qu'en fait, tu as ton style et que tu l'as choisi et que tu le travailles et que tu fais tout pour justement avoir cette homogénéité sur Instagram. Mais à quel moment est-ce que tu... À un moment où tu n'étais pas encore dans le process, on va dire, d'être un Instagrammeur professionnel, à quel moment tu as trouvé ton style? Comment est-ce que ça s'est fait? Et quelle a été, une fois de plus, la réflexion à ce sujet?
Alors, je te reproche une chose. Instagrammeur professionnel, pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas Instagrammeur. J'utilise juste Instagram, une plateforme de communication.
Oui, bien sûr. Tu es un photographe qui se trouvait sur Instagram.
Voilà. Non, mais voilà. C'est, mais il y en a qui se considèrent Instagrammeurs, qui sont Instagrammeurs born, ce qui n'est pas mon cas, parce que ouais. J'avais déjà ma carrière de photographe lorsque je suis arrivé sur Instagram. Mmh. Et tu as dit une autre chose importante. Tu as dit 2015. Mmh. Qui est le moment où je me suis intéressé justement à Instagram. Mmh. Et où j'ai, comme à l'époque pour Airbnb, où il faut comprendre les best practices, Instagram aussi, il fallait comprendre les best practices, comment il fallait faire pour que les ça marche sur Instagram. Il y a des règles également. Voilà, je reprends un peu mon côté ingénieur. C'est, il faut avoir effectivement un style reconnaissable. Il faut que rapidement que les gens voilà, sachent que c'est ma patte artistique. Et c'est à partir de là que j'ai adapté ma ligne éditoriale à Instagram, ce qui est bien pour se développer sur Instagram, mais qui n'est pas forcément bien artistiquement parlant. Je trouve que depuis que je suis sur Instagram, j'ai une perte de créativité aussi. Voilà, on est souvent un peu pollué par les idées des autres. Ouais. Et c'est, voilà, et ça, donc c'est pour ça que depuis 2015, effectivement, il y a ce changement un peu reconnaissable de mon style qui devient plus lumineux, notamment. Mmh. Et bien qu'avant, il l'était toujours... depuis Airbnb, et c'est depuis Airbnb que j'ai vraiment été formé à ce style-là, comme il me demandait toujours de montrer les appartements bright and colorful. Mmh.
Bright and colorful, d'accord, c'est le style Loïc Lagarde.
Et ce côté bright and colorful qui, en fait, date d'Airbnb, d'accord. Parce que c'est more appealing.
Ouais.
Et forcément, et ça j'ai appris que c'était more appealing, j'ai appliqué ce style qui, alors certains me disent que c'est totalement l'opposé de qui je suis, enfin de mon être, mais justement là, ce que moi c'est mon pendant que j'exprime à travers mes photos. J'ai pas envie de montrer des photos noires et des photos des photos sombres et tristes, mais j'ai envie de faire rêver à travers mes photos. Voilà.
Bah ça se sent et en fait, on sent ton exigence et on sent que justement, voilà, tu as un peu ces grands principes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent, et tu l'as dit un peu en filigrane là, que mine de rien, ça doit quand même comporter aussi un certain nombre de frustrations parce que du coup, forcément, tu t'es mis dans un style qui est le tien, mais mine de rien, il y a plein de choses que tu ne fais pas. On en parlait juste avant de commencer. Bah, typiquement, tu te mets assez peu en avant, ce qui est quand même pas naturel en fait sur Instagram. Et une de mes questions, c'était est-ce que tu pourrais me parler un peu des règles justement que tu t'es fixées, que tu t'imposes de suivre sur Instagram et qui sont pas forcément simples pour toi de respecter, parce que donc ben, pour les personnes qui vont écouter le podcast, je vous invite à aller regarder le compte de Loïc, mais en gros c'est des photos donc de paysages qui sont magnifiques, qui sont bright and appealing et qui sont des photos de monuments essentiellement, de paysages, et donc il y a très peu d'humains par exemple. Voilà, ce que je trouve étonnant, enfin pas étonnant, mais très particulier et qui fait vraiment partie de ton style, c'est justement le fait que souvent, même des Instagrammeurs ou des personnalités qui font beaucoup de photos ont quand même des photos parfois qui sortent un peu du cadre, de leur cadre. Toi, en fait, on sent vraiment qu'il y a des règles et qu'il y a une cohérence qui est très, très forte. Et donc, je voulais savoir simplement quelles étaient justement ces règles que tu t'étais imposées.
Alors, de façon générale, quand même, sur Instagram, c'est très difficile de sortir de son cadre, quels que soient les comptes. Ceux qui le peuvent, c'est qu'ils vendent leur image et non leur contenu.
Oui.
Et moi, je vends mon contenu. Mmh. Et tous ceux qui vendent leur contenu doivent rester dans le cadre. Et c'est ça qui est vraiment... C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que moi, à côté de ça, bah, j'aime bien prendre l'humain en photo. Lorsque je shootais pour Airbnb, moi, ce que j'adorais, c'est faire des c'était de faire des portraits,
portraits
environnementaux des personnes que je rencontrais dans leur intérieur et de partager un petit peu ce travail d'équipe avec eux pendant quelques minutes. Et ça je ne peux pas je ne peux pas poster ce type de photo sur Instagram parce que enfin sur mon compte principal d'Instagram parce que c'est pas ce qu'attend ma communauté. Ou même faire des photos d'animaux, des photos je veux dire de non mais c'est surtout le côté humain, le côté portrait qui me manque et que je ne peux pas poster sur mon compte Instagram. Je peux faire un compte à côté. J'avais commencé à faire un compte où je mettais mes photos mes vieilles photos je faisais donc de portraits environnementaux. Mais bon, après, j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est pas évident à développer non plus. Donc
Donc en
voilà,
fait,
Instagram impose ce qui est un petit peu de. Enfin, après, c'est un peu dommage, mais je sais pas si c'est Instagram ou c'est de manière générale dans la vie. Comme vous savez, en fait, je vais prendre par analogie la musique. Si tu fais du rap.
tu vas pas te mettre à faire de la danse classique, enfin de la musique classique après dans un prochain album, quoi.
Et ouais, sinon tu vas perdre toute ta
Je comprends.
communauté.
Oui, c'est qu'en fait,
Voilà.
comme ta communauté est habituée à ce style, en gros,
Ouais.
tu continues
C'est
à
ça,
porter ce
exactement. Enfin,
style.
ça peut être la même chose pour la littérature, en fait. Je pense que c'est appliqué à tous les styles. Quand tu as un public, ils s'attendent à une ligne précise, et si ça ne rentre pas exactement dans la ligne, alors ils comprennent pas, c'est pas ce qu'ils veulent. Voilà, tout se passe comme ça. Et sur Instagram, c'est vrai qu'on est vraiment vraiment piégé dans cet écueil. Et plus on like, plus on s'intéresse à un type de contenu, et plus on nous sert ce type de contenu. Donc on est orienté à voir la même chose. C'est un des dangers des réseaux sociaux parce que ça nous oriente vraiment sur un type d'information, un type de message, un type de contenu,
Oui, qui est celui qui
et
marche, entre guillemets, presque
qui
plus
nous
que.
met des œillères finalement sur le reste. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, mon travail sur Instagram aujourd'hui, je dois respecter très scrupuleusement des
OK,
règles
des codes.
éditoriales
D'accord.
qui fait que ça limite très clairement mes partenariats, par exemple. J'ai des types de partenaires avec lesquels je peux travailler et d'autres avec lesquels je ne peux absolument pas travailler. Voilà, parce que lorsque je travaille pour en tout cas communiquer sur Instagram, j'ai deux clients, enfin j'ai un partenaire B2B avec lequel qui sont en général des hôtels et des destinations, des acteurs du monde du tourisme, parce que c'est beaucoup dans le voyage, mes photos. Et à côté, un client B2C qui, lui, ne me pardonne aucune erreur,
Oui, c'est
qui
ça.
est ma communauté.
Donc tu as vraiment en fait deux clients entre guillemets, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes besoins en plus.
Exactement. Donc ça c'est le vrai challenge de, en reprenant le ton terme, de l'Instagrammeur.
Bon, mais alors justement, je sais que tu n'es pas du tout que Instagrammeur, mais en fait, je voulais quand même parler de toutes les photos que tu fais en dehors d'Instagram, et notamment en fait de l'exposition universelle, où tu as été sélectionné pour, enfin plus que sélectionné, en fait, tu as donc exposé tes photos. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? Et justement, est-ce que Instagram quand même t'a aidé pour ça, ou ça s'est
Alors,
fait un petit peu
ce qui est
différemment?
amusant, c'est que Instagram ne m'a pas aidé grand-chose sur ces grands événements. C'est encore une fois Flickr.
Ah oui, comme quoi. Donc
Comme
un autre
quoi,
réseau, mais
toujours, et
professionnel.
celui de où j'étais contacté sur Airbnb, comme quoi, voilà, la vie ne s'arrête pas à Instagram. C'est pour ça que voilà, je dis que je ne suis pas Instagrammeur, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Je communique sur d'autres plateformes dédiées à la photo. Enfin, je crois que bon, c'est quelqu'un qui avait fait des recherches de photos en France, il avait vu une photo du Mont-Saint-Michel que j'avais postée en tapant sur Google. quand tu tapes sur Google, simplement. Tu vas pas trouver vraiment sur Instagram, parce qu'il y a un Instagram, tu es que sur, sur mobile. Et là, par contre, tu as des sites avec des bonnes références sur, sur Flickr, sur 500px, qui sont les réseaux de partage de photos. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à exposer mes photos autour du salon, autour du pavillon France de l'exposition internationale d'Astana en 2017. Astana, oui, qui est la capitale du Kazakhstan, comme je sais, précision. Assez peu de personnes doivent le savoir.
Non, mais qui a un achievement quand même vraiment important pour un photographe quand même. Et j'imagine que ça devait être une des plus grandes fiertés. C'était une question d'ailleurs que je voulais te poser. Je ne sais pas si c'est ta plus grande fierté, mais est-ce qu'il y a des choses, notamment dans le milieu de la photo, dont tu es particulièrement fier, que tu aurais fait ? Peut-être que tu n'as pas publié sur Instagram d'ailleurs.
J'ai marqué de toute façon le chemin de certaines personnes à travers mes photos ou des personnes comme ça que je rencontre par hasard dans la rue à Tokyo, voilà, qui sont mes followers.
Ouais.
C'est drôle, quoi. Ou je reçois des messages, ah ben je t'ai vu tel dans telle rue, machin. Ouais, c'est ce genre de choses. Alors ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux, ouais, que je trouve assez sympa. C'est c'est ça. Bon, après, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais ça, c'est plutôt sympa.
Alors, justement, les mauvais côtés, il y a un mauvais côté, souvent, on en parle beaucoup, qui est la critique et tout ce qui est un peu... les personnes qui, je pense, derrière un ordinateur, se sentent assez à l'aise pour donner un peu des avis négatifs ou ne pas être content ou exprimer, on va dire, quelque chose qu'ils ont envie de dire. Et en fait, quand on est photographe comme toi, ou quand on est artiste ou même quand on écrit un livre, je trouve qu'on se dévoile quand même un peu et qu'on met une partie de soi-même. Et du coup, je trouve que la critique, elle est assez difficile à aborder. J'en parlais, nous, on est un photographe en interne chez Gémio, pour tout dire, et je lui disais, c'est normal, en fait, qu'on fasse des feedbacks, qu'il y a des points d'amélioration et tout, c'est pas pour autant que tes photos ne sont pas bien, mais dès lors qu'il y a une démarche artistique, je trouve que c'est assez difficile justement d'accepter la critique. Et toi, t'as l'air d'être quand même assez ouvert à la critique, parce que t'en parlais au début sur le fait que t'acceptes un peu de feedback.
Honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. C'est par justement parce que j'ai accepté la critique.
Mais alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être aussi dans une démarche artistique et qui, eux, vivent mal le fait qu'on va, leur dire « Ah ben là, j'aime pas ta photo » ou « Je trouve que tu aurais dû mettre plus de bleu », je ne sais quoi, parce qu'en plus, ça peut être considéré comme un peu subjectif, donc j'imagine que c'est pas simple. Est-ce que toi qui l'apprends bien, cette critique, quand t'en as, est-ce que tu aurais des petits trucs à donner aux personnes qui nous écoutent?
Je veux dire, pour ces personnages, je dis tant pis pour eux, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et j'aime pas que les gens réagissent comme ça. Voilà. C'est une réaction que je ne comprends pas. Je trouve ça très stupide et arrogant. Toute critique constructive est intéressante à prendre. D'ailleurs, moi, je suis très à l'écoute de ma communauté lorsque je poste mes photos. Je montre souvent en preview, je fais je prends des échantillons test pour avoir leur avis. Même si ils ne connaissent rien à la photo, c'est leur sensibilité qui m'intéresse. Ils peuvent dire « Ah non, j'aime pas trop la photo, elle est trop je sais pas quoi. Ben, » je vais écouter ce qu'ils me disent. Je me braque pas en me disant « Non, mais je sais pas quoi. » Non. C'est grâce à ça, moi, que je me suis construit en tant que photographe. Ouais. C'est en écoutant. Parfois, je prends pas tout en compte, hein, bien sûr. Il y a des personnes qui disent « Ah, ben, c'est trop lumineux. » Je dis « Bah oui, mais c'est ce qui plaît à ma communauté. »
Oui, c'est pas parce qu'on te fait une critique, c'est mon style.
Moi aussi, j'aime bien ça. Donc, c'est mon style. Mais je comprends que tu trouves ça trop lumineux. C'est vrai. Voilà, c'est mon style. Voilà, c'est ça. Et par contre, c'est vrai, je vois ça beaucoup, d'ailleurs sur Instagram, qui a une émergence de beaucoup de petits producteurs de contenu qui se sont développés, qui malgré la fraîcheur de leur expérience, se braquent très facilement pour n'importe quoi. Parce que, alors c'est aussi parce qu'ils viennent d'une génération facialement, sur Instagram notamment, on ne critique jamais. On dit toujours ah c'est magnifique. Bah,
c'est vrai que même c'est pas un réseau social où il y a beaucoup de critiques.
Exactement, non, ça ne se fait pas de critiquer sur Instagram, même positivement, même de façon constructive, ça ne se fait pas. C'est le sur Instagram, c'est le bal des faux culs. Voilà. Par contre derrière c'est que du lynchage et mais bon là c'est comme dans beaucoup de réseaux et l'être humain est fait ainsi mais c'est très exacerbé sur notamment sur cette plateforme qui est un peu l'apologie du superficiel et de l'image.
Bon écoute l'avantage c'est que le podcast c'est un peu l'inverse de ça, c'est que du contenu non superficiel, on espère. J'aime bien terminer le podcast par quelques petites questions plus ou moins rapides, mais un peu plus personnelles. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu peux me décrire, même si je sais que ça va pas être facile, parce que je pense que ça doit varier beaucoup, mais une journée type de Loïc Lagarde. Quand je dis une journée type, c'est pas forcément que tu me dises tout de A à Z, mais par exemple, si tu sais que tu as certaines habitudes que tu aimes bien suivre, par exemple, tu te lèves le matin à telle heure, je sais que tu voyages beaucoup, donc ça va peut-être pas être facile, mais voilà, si tu peux me décrire un peu ça pour que les gens se rendent compte qu'est-ce que c'est en fait que d'être dans tes baskets.
Alors déjà, je n'ai pas de routine, donc c'est difficile, et je n'aime pas la routine, c'est très compliqué de parler de journée type pour ma part, et aussi je voyage beaucoup, mes journées ne se ressemblent jamais, juste jamais, et c'est d'ailleurs ce que j'aime. Que parce que lorsque mes journées se ressemblent, je ne vais pas bien.
D'accord.
Voilà, tout simplement. À part le fait de prendre un café le matin, il n'y a pas grand-chose que
je... Il n'y a pas beaucoup de dénominateurs communs.
Il n'y a aucun dénominateur
D'accord.
commun. Donc,
quelques photos dans la journée, à un moment donné, on ne sait
oui,
pas quand.
Oui, vraiment, si j'ai l'inspiration, mais c'est probablement... voilà, c'est pas non plus gagné. C'est souvent des départs vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Ouais.
C'est souvent voilà la commande d'un Uber ou d'un Taxify.
Ouais.
Ça va être l'arrivée à l'embarquement. La routine, ça va être dans l'avion où je commence à m'installer je me dis ah zut, j'ai oublié de prendre mon casque. Oh là là. donc voilà, c'est pour ça que je suis pas très routinier parce que même les choses où je devrais être un peu plus rigoureux, penser à bien prendre les choses, parfois j'y pense pas, je me dis oh mais pourquoi j'ai pas pris le truc à chaque fois j'oublie. Oh là 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 là. Et donc voilà.
Au niveau des photos quand même, il y a un peu des, alors pas des habitudes mais peut-être des heures.
Oui, alors par contre oui, pour
qui te plaisent plus que d'autres.
Alors pour la photo, la communication et notamment sur Instagram, j'essaye de poster tous les jours à la même heure.
Voilà, donc là-dessus, c'est quand même une certaine routine.
Oui, il y a une routine qui est effective là-dessus.
Qui est une routine décidée.
C'est qui ne correspond pas au côté personnel, mais qui correspond un peu au côté pro, en fait, d'une certaine manière. C'est que voilà, je poste sur les réseaux sociaux toujours à peu près à la même heure, et c'est un rendez-vous avec ma communauté en fait.
Ouais.
Comme n'importe quel média, on s'attend à avoir la photo qui tombe à telle heure, donc elle doit tomber à telle heure, quel que soit ce qui se passe, même s'il y a décalage horaire, même si c'est au milieu de la nuit, même si c'est je suis à l'autre bout du monde, etc.
Oui, parce qu'en plus, tu le fais toi, à la main, donc ça veut dire que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais quand tu es au fin fond de la Chine.
Exactement.
Parce qu'en fait, les horaires, pour qu'on le sache, si jamais on a envie de te suivre, c'est à quelle heure ?
C'est plutôt fin d'après-midi, début de soirée, en ce moment, vers 18h.
D'accord.
Voilà, donc, c'est qu'il y a un horaire qui correspond bien à l'Europe, aux États-Unis. Également,
D'accord.
c'est milieu de c'est Big Geek, donc, ce qui permet comme ça de... Mes deux grosses communautés qui sont en Europe et aux États-Unis, ça permet déjà qu'ils
puissent voir
ma contenu. C'est vrai que j'aime moins de monde du côté... il y a quand même un petit peu du côté Asie, mais ils sont pas toujours engagés de la même manière. Mais ils peuvent quand même voir pour eux. En gros, ils vont se coucher. C'est la fin du. Les Européens rentrent du bureau et les Américains font leur pause déj. Quoi.
Ouais,
voilà, en gros, c'est un petit peu le moment où je poste. Et à ce moment-là, c'est là que j'essaye de poster.
Et au niveau de la prise de vue, tu as des moments que tu préfères quand même pour shooter ou vraiment c'est hyper...
Voilà, on va parler un peu photo, c'est bien. C'est vrai, on n'avait pas parlé photo de tout le podcast, donc c'est une bonne idée. Alors effectivement...
Mais comme je ne me sens pas très légitime en même temps,
Non, justement, c'est que tu peux poser toutes les questions que tu veux. Si tu étais légitime, ça ne m'aurait pas plu de répondre à des questions. C'est... Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, oui, il y a des horaires. Sur le type de photos que je fais, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on est plutôt sur des photos de paysages, architecture urbaine, ambiance, etc. Il y a des moments de la journée où la lumière est plus belle, c'est ce qu'on appelle la golden hour. Mmh. Et à ce moment-là, c'est juste après le lever du soleil et juste avant le coucher du soleil.
D'accord.
Voilà. Et
lumière rasante.
C'est la lumière rasante, c'est la belle lumière dorée, la belle lumière rosée. Et ce qui fait aussi que mon feed est homogène et est cette couleur dorée, rosée, etc. C'est maximum, j'essaye de respecter cette contrainte de faire les photos. Alors, c'est pas particulier à moi. Hein. Un grand nombre de photographes travaillent de cette façon-là, notamment tout ce qui est paysage. Donc, c'est beaucoup quand même lever de soleil, coucher de soleil. Ça fait que, effectivement, lorsque je suis en voyage, mes horaires de shoot, c'est je me lève le matin très tôt. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas toujours très reposant, on va dire. Et je privilégie d'ailleurs plutôt le lever de soleil au coucher de soleil, parce que le lever de soleil, notamment lorsqu'on visite une ville, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne.
Ah oui.
Et coucher de soleil, il y a plein de monde. Quand tu es, par exemple, dans une ville comme Prague ou Rome, ou Paris d'ailleurs, hein, c'est coucher de soleil, tu as plein de touristes partout. Si tu veux prendre Notre-Dame au moment du coucher de soleil, tu as plein de monde. Par contre, tu arrives à 6h du mat, là, tu n'as
personne.
Tu n'as pas un chat, tu as juste quelques pigeons qui se battent en duel. Et c'est justement à ce moment-là que je vais faire la photo pour avoir à la fois donc, Paris à moi tout seul, Rome à moi tout seul, et la belle lumière qui va avec. Alors c'est un pari, parfois la lumière est belle, la lumière n'est pas belle. Parfois j'y vais, je me lève super tôt, je crevais et j'y vais pour rien, je ne fais aucune photo. Ouais. Et j'ai super froid. Et mais au moins, je me suis levé et j'ai tenté ma chance. Et c'est ça, la photo, il faut toujours, au lieu de se dire « Ah, là, est-ce que j'y vais pas ?» vas-y toujours.
Ouais.
Et soit il y a une belle photo, soit il n'y a rien. Mais voilà.
Et si tu n'y vas pas, de
toute façon, si jamais il y a un super truc, tu vas le regretter. Et de toute façon, voilà. Et c'est pas dire ah on refera ça plus tard, parce qu'en fait l'image n'est jamais la même, en fait la lumière n'est jamais la même, les conditions sont jamais les mêmes, et même des endroits, même c'est comme le voyage par exemple. Je suis toujours pressé de voyager, notamment dans les nouvelles destinations. Est-ce que le rapport avec les populations, les paysages, les villes changent énormément. La Chine, moi, que j'ai connue en 2008, n'a rien à voir avec la Chine de maintenant.
Oui.
Mais mes souvenirs de ma première visite de la muraille de Chine, c'est des souvenirs que je ne pourrais plus jamais retrouver. Parce que la muraille de Chine, comme je l'ai visitée, ne se visite pas comme aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Je me souviens aussi une fois où j'étais allé en Jordanie et je me suis dit « Ah bah tiens, on va faire aussi la Syrie en même temps. La Jordanie, ça fait déjà pas mal. La Syrie, on fera ça la prochaine fois. » Il n'y a pas de prochaine fois parce que voilà, la Syrie, ça a été la guerre. Donc,
ne pas tergiverser, pas procrastiner.
C'est moi que je cherche, pas de procrastination. Et en photo, c'est vraiment le cas en fait. On se dit, il faut y aller quoi. Il faut faire, voilà, et on ne sait jamais ce que ça va donner. Photo et voyage, c'est vraiment ça. Il faut toujours, c'est pour ça que j'ai la bougeotte, c'est pour ça que je me dis, là, j'étais faire les feuilles, l'automne au Japon, parce que je voulais faire les feuilles, l'automne au Japon avec les couleurs et tout ça. La neige à Moscou avec Noël, voilà, c'est des événements, c'est des destinations qui sont parées dans leur meilleur apparat une fois par an. et il faut les faire maintenant. Si on ne sait jamais, peut-être que à Moscou l'hiver prochain, le Noël prochain, ils vont arrêter de faire ça parce que, je ne sais pas, il y aura eu comme chez nous, malheureusement, un gros attentat ou je ne sais quelle histoire. Ils se diront, ben, maintenant, on va verrouiller et on va arrêter. On va en faire moins, quoi. Comme ça se passe chez nous. Voilà, comme on voit la tour Eiffel aujourd'hui avec son mur tout autour.
Oui, c'est impossible de prendre des belles photos. Quoi.
Moi, j'ai fait plein de photos sympas de la tour Eiffel lorsque j'étais en dessous avec des compositions, avec les cerisiers en fleurs, autour et avec le pan de le petit lac en bas. Là.
Oui.
Mais maintenant, qui est de l'autre côté du mur.
Oui.
Et quand on voit maintenant la tour Eiffel, quand on voit la tour Eiffel en murée, et là, je me dis, les photos, il fallait les faire avant. Maintenant, c'est terminé. C'est trop tard.
Mmh. Est-ce qu'il y a des voyages comme ça que t'anticipes ou des destinations que tu n'aurais pas encore fait ou que tu as faites et que tu as très envie de refaire là, dans les prochains mois, prochaines années?
Alors, destination que j'ai toujours envie de faire déjà, c'est l'Iran, justement pour les raisons que je viens d'évoquer.
Tu ne l'as jamais fait pour l'instant?
Je ne l'ai jamais fait. J'aimerais bien le faire parce que ça, c'est un pays qui s'ouvre et je pense que c'est vraiment le moment d'y aller. Mmh. Et après, ça ne sera plus pareil. Cuba, par exemple, j'y suis pas allé et c'est trop tard, je pense. Voilà, je pense qu'il n'y a pas l'expérience. Mmh. Si j'avais été il y a 10 ans, je pense que c'était autre chose. Et des destinations où j'ai envie de retourner, évidemment, au Japon, parce que j'ai toujours envie de retourner au Japon. Ça, c'est logique, mais je retournerais bien en Chine. Mais par exemple, c'est vrai que les dernières fois où je suis allé en Chine, mon expérience n'était pas la même que les premières fois. Le rapport avec les gens avait beaucoup changé, notamment à Shanghai, qui est la première fois où il n'y avait pas beaucoup de... on n'était pas beaucoup d'Occidentaux à y aller. Et puis, les dernières fois, ils étaient envahis et les Chinois n'avaient pas du tout le même accueil, on va dire.
Oui, c'est ça.
Donc,
c'est sûr que les pays où il y a peu de tourisme, j'imagine, tu arrives à avoir un accueil hyper privilégié et chaleureux des locaux, quoi. Donc ça doit être assez différent.
Voilà, tout à fait. Bah, un pays avec très peu de touristes et que j'ai beaucoup aimé, où j'aimerais bien retourner, c'est le Kazakhstan, par exemple.
Mmh. Oui,
pour explorer toute la partie, parce qu'ils ont des paysages magnifiques, notamment dans le sud. Mmh. Donc voilà.
Top. Une autre question que j'aime bien poser, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
Alors, si je peux te donner des conseils, ils sont bon ou mauvais à prendre. Et souvent, il y en a beaucoup, dès qu'ils ont des conseils un petit peu mauvais, qui sont juste là pour t'enfoncer, un petit peu comme dans Le Parrain, je ne sais pas si tu vois, où tu as vu Le Parrain, où on te dit, oui, quand il y a quelqu'un qui te veut du bien, c'est qui te veut du mal. Si je serai là pour toi, je serai là toujours là pour t'aider, c'est que le mec, en fait, il veut t'abattre derrière. Mais donc, il faut faire attention aux conseils. Je suis très positif, n'est-ce pas? Mais un conseil que j'essaie d'appliquer, qu'on m'a donné, c'est de, au bout d'un moment, d'essayer de on a ses forces et ses faiblesses. Mmh. Et au lieu d'essayer d'améliorer ses faiblesses, qui demandent beaucoup de travail et on n'arrivera peut-être pas forcément à un résultat, autant améliorer ses forces et aller à fond dans ses forces pour devenir le meilleur là où on est fort. Mmh. Voilà.
Ça enlève un certain nombre de frustrations. Mais je suis complètement d'accord avec ce conseil, c'est marrant parce que j'ai déjà eu plusieurs personnes dans le podcast qui m'ont cité un conseil assez similaire, notamment je pense à Victor Luger, le fondateur de Big Mama, qui me disait ça. Et je pense qu'en fait c'est assez clé de se dire qu'on peut pas être bon partout et qu'en fait il vaut mieux être extrêmement bon et se spécialiser dans un domaine plutôt que d'essayer de tout faire un peu moyennement, quoi.
C'est ça.
Une autre question que j'aime bien poser aussi, c'est, tu le sais, une question sur les livres. C'est en général d'ailleurs la dernière question du podcast. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes autour de toi, que tu as lus, qui t'ont particulièrement marqué au cours de ta vie?
Alors, que je recommande, je ne sais pas. Présomptueux de ma part de recommander quoi que ce soit. Mais par rapport à... Je vais juste parler d'un livre qui est un peu en reflet avec qui peut clore aussi le podcast et en reflet avec mon expérience. C'est un livre que j'avais lu d'ailleurs à l'époque à ce moment de bascule, qui est L'homme qui voulait changer sa vie.
L'homme qui voulait changer sa vie, je ne connais pas ce...
qui a été adapté plus tard en film avec Romain Duris.
D'accord.
Le film n'est pas terrible, le livre est plutôt sympa.
Et ça s'appelle comme ça, L'homme qui voulait changer sa vie.
L'homme qui voulait changer sa vie, plus
d'accord.
ou moins. C'est en anglais, je ne sais plus comment c'est en français exactement, mais l'homme qui voulait changer sa vie. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait une carrière dans la avocat finance, je ne sais pas quoi, à Manhattan dans les années 80, voilà, mm-hmm. machin, la familiale, bordel. Et il y a eu des événements, il avait la passion de la photographie, il a tout plaqué pour devenir photographe et se barrer à l'autre bout du monde, refaire totalement sa vie, inventer même une mort d'une certaine façon
ça a été peut-être un élément pas déclencheur, mais on sent que ça t'a inspiré, ta façon dont t'en parles.
Oui, tout à fait.
Je mettrai les notes en tout cas dans le nom, je retrouverai le nom et puis le nom de l'auteur aussi dans les notes du podcast pour que les personnes que ça intéresse puissent le suivre. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Loïc, qui te tient à cœur, que tu as envie de nous dire avant qu'on se quitte ou pas particulièrement?
Non, ça va pas particulièrement. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que je t'ai suffisamment saoulé avec ma vie.
Pas du tout. Non, mais je regrette un peu qu'on n'ait pas plus parlé de photos, mais je me sens tellement pas à l'aise sur le sujet que je t'avoue que...
Tu as appris des choses sur la photo, sur quand Fadil est-il.
Là, je saurais maintenant quand il faut faire des photos. Écoute, en tout cas, moi, je te remercie mille fois d'avoir accepté de me consacrer autant de temps. Pour les personnes qui veulent te suivre, donc il y a évidemment Instagram, c'est très facile, Loïc Lagarde. Vous le trouverez facilement, il y a un point, je crois, entre Loïc et Lagarde, non ?
C'est ça.
C'est ça, donc je le mettrai en tout cas dans les notes du podcast. Si on veut te suivre, par ailleurs, on le fait où ? Sur LinkedIn aussi, je crois ?
Pareil, même nom, même prénom.
Loïc Lagarde.
De toute façon, voilà, tapez sur Google, en général.
On t'y ressort
facilement. Il y a sur Flickr, sur 500px. Bon, après, ça devient un peu plus spécialisé sur la photo. Après, pour le mainstream, on est sur Instagram.
Puis t'as un site
business
aussi, tout
simplement. Sur LinkedIn. Et un site que qui est en pleine refonte là, donc là je m'en occupe. Ça c'est mon projet du mois de janvier, mais j'ai pas la même niaque que mon premier site que j'ai fait. Ça c'est voilà.
T'as pas le temps, tu voyages.
Oui, mais là justement, 2018 je ne fais que ça, donc cette année je me suis dit première résolution, il faut que je me refasse un nouveau site.
Très bien, c'est bien d'avoir des résolutions.
C'est bien d'en avoir.
Il faut les tenir.
Ouais. Et bon
procrastiner, n'oublie pas, c'est ton conseil. Louis.
Exactement. Ouais.
Génial. Merci en tout cas beaucoup, puis je te dis à bientôt.
À très bientôt et très bonne soirée à toi.
Hello à nouveau, et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas, j'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.